RFI, grand reportage.
Elle s'appelle Kamala Harris, elle a 55 ans et c'est elle, la sénatrice de Californie, que Joe Biden a choisie en août dernier pour devenir sa colistière dans l'espoir de battre Donald Trump le 3 novembre prochain. En cas de victoire, Kamala Harris deviendrait la première femme de couleur vice-présidente des États-Unis. Elle a été choisie en pleine vague de tensions raciales après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc. Depuis, des émeutes secouent plusieurs villes d'un pays de plus en plus divisé. Le ticket Kamala Harris, Joe Biden, se présente comme celui qui guérira les États-Unis de ces divisions avec une candidate à la vice-présidence qui se pose en enfant californienne de la diversité et des droits civiques. Mais son bilan sécuritaire ne fait pas l'unanimité dans sa région. Sur les traces de Kamala Harris en Californie, c'est un grand reportage d'Éric DeSalve.
La directrice de la Thousand Oaks School nous ouvre la porte de son bureau. Dès l'entrée trône un portrait officiel, celui de Kamala Harris. C'est ici, dans cette école primaire posée sur les hauteurs de Berkeley, que la sénatrice de Californie était scolarisée jusqu'à ses 12 ans. C'est Miss Sylvia, la responsable de l'accueil, qui a tenu à afficher juste au-dessus de son guichet la photo de cette prestigieuse ancienne élève, devenue aujourd'hui la candidate démocrate à la vice-présidence des États-Unis. Un brin malicieuse, l'employée administrative, elle-même afro-américaine, a également ajouté juste à côté de la photo de Kamala Harris une affichette avec un message destiné aux enfants.
Oh, c'est juste une blague. C'est écrit « Cette école mène à tout, y compris à la vice-présidence des États-Unis ». On veut juste que les parents et les enfants soient conscients que rien n'est impossible pour eux. Quand elle s'est présentée à la présidence, des élèves sont venus me voir pour me poser des questions du genre « Est-ce que c'est vrai? Elle était vraiment ici, dans cette école, comme moi ?» Ils voulaient vérifier si c'était vraiment possible de faire comme elle après cette école. Je leur ai répondu « Oui, bien sûr, toi aussi tu peux le faire, à condition que tu fasses bien tes devoirs. »
Miss Sylvia ne travaille pas dans l'école depuis assez longtemps pour savoir si Kamala Harris faisait bien ses devoirs. En revanche, elle n'a pas oublié quand la candidate à la vice-présidence a elle-même fait parvenir sa photo à son secrétariat. Un clin d'œil très apprécié par son ancienne école primaire qui ne cache pas son enthousiasme depuis le lancement de cette ancienne élève dans la course à la Maison Blanche, comme l'explique la principale de l'établissement, Jackie Parker.
Tout le monde est super enthousiaste, à commencer par les parents. Ils ont même fait des t-shirts, des sweatshirts et des sacs à l'effigie de Kamala Harris avec « Femme leader de Thousand Oaks » écrit dessus.
Madame Parker nous fait visiter les lieux. Ses talons résonnent dans une école vide en raison du coronavirus. Mais l'année dernière, c'est devant tous les élèves réunis dans la cour de récréation que la directrice a inauguré une vaste fresque en l'honneur de la sénatrice de Californie.
C'est très stimulant pour les jeunes filles de l'école. Donc voilà, c'est ici.
Cette peinture murale représente le visage de Kamala Harris, entourée d'autres femmes de couleur illustres et mondialement connues.
You have Malala. Ici, c'est la prix Nobel Malala, là, à côté de Kamala. À côté, c'est la tenniswoman Serena Williams. Là, on a aussi la syndicaliste Dolores Huerta qui tient une pancarte avec « protester » écrit en espagnol. Le mot « persister » est écrit aussi.
En ayant le visage de Kamala Harris peint sur un mur de la cour de récréation, quel est le message que vous voulez envoyer aux élèves?
C'est très important de voir des femmes de couleur leaders, surtout dans le contexte actuel de mobilisation pour plus de justice sociale. C'est un modèle et une source d'inspiration pour les enfants.
Avec ce portrait de Kamala Harris dans la cour, la directrice espère changer les représentations. Dès son enfance, Kamala Harris s'est retrouvée dans ce rôle, celui de la première femme de couleur à occuper un poste autrefois réservé aux blancs. Celle qui est aujourd'hui la première afro-américaine candidate à la vice-présidence des États-Unis était déjà l'une des premières élèves noires de son école primaire. Petite, elle n'était pas censée fréquenter cet établissement qui était autrefois réservé aux enfants blancs. Mais en 1967, la ville de Berkeley lance un programme expérimental de déségrégation scolaire appelé le busing. L'idée est simple, aller chercher en bus des élèves dans les quartiers noirs pour leur offrir une meilleure scolarité dans les quartiers blancs. Kamala Harris est une des premières à en bénéficier.
Les choses ont en fait commencé à changer avec cette politique d'intégration. Ces bus ont permis d'intégrer beaucoup plus d'Afro-Américains à Thousand Oaks. Kamala a été conduite à l'école avec ces bus. Ça fait partie de notre histoire et cette histoire continue aujourd'hui car beaucoup d'enfants continuent d'être amenés ici en bus depuis d'autres quartiers de Berkeley.
Cette enfance et cette histoire raciale complexe, Kamala Harris en a fait un élément central de son récit politique. Sa photo d'écolière est d'ailleurs en couverture de son autobiographie. C'est aussi à Oakland, sa ville natale jumelle de Berkeley, qu'elle a lancé en 2019 sa campagne pour les primaires démocrates. Un coup de force à l'époque, 20 000 personnes sont venues la soutenir. Durant cette enfance californienne, Kamala Harris le répète souvent, deux femmes ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Sa mère d'abord, mais aussi son institutrice de primaire à Berkeley. Cet épisode de sa vie a d'ailleurs été l'un des moments clés de la campagne des primaires démocrates. En 2019, en plein débat télévisé entre candidats à l'investiture, Kamala Harris lance une charge violente contre son rival à l'époque, Joe Biden, accusant à demi-mot l'ancien vice-président de Barack Obama de racisme parce qu'il s'était opposé à cette politique du busing dans les années 70 en votant au Sénat avec des élus ségrégationnistes.
Vous avez travaillé ensemble pour vous opposer au busing. Or, à cette époque, il y avait une petite fille en Californie qui était amenée à l'école publique tous les jours grâce à ces bus. Cette petite fille, eh bien, c'était moi.
Le trajet en bus scolaire de cette petite fille de Californie ne durait qu'une quinzaine de minutes. Mais ces 15 minutes la transportaient d'un monde à un autre. Des quartiers populaires réservés aux Noirs, situés au bas de Berkeley, où Kamala Harris habitait avec sa mère et sa sœur, au quartier blanc cossu, sur les hauteurs de la ville. Entre les deux, une frontière bien définie, appelée la ligne rouge, la Red Line. C'est sur cette ancienne ligne rouge que nous retrouvons Scott Saul, spécialiste de l'histoire afro-américaine de Berkeley, où Kamala Harris a grandi, et d'Oakland, sa ville jumelle où elle est née. Professeur d'anglais et de civilisation américaine à l'université de UC Berkeley, il nous a donné rendez-vous sur l'une des artères de la ville qui servait encore de ligne de démarcation ethnique quand sont arrivés les parents de Kamala Harris en Californie. Deux immigrés, une mère venue d'Inde, un père de Jamaïque pour étudier dans cette prestigieuse université de Berkeley où ils se sont rencontrés dans les cortèges des manifestations pour les droits civiques.
Donc nous nous trouvons maintenant sur une avenue qui s'appelle aujourd'hui Martin Luther King Street, mais qui s'appelait avant Grove Street. C'était la frontière entre le Berkeley noir et le Berkeley blanc. Au-delà de cette rue, une personne noire ne pouvait pas acheter une maison.
Ça veut dire que sur cette rue, cette route où nous nous trouvons, à gauche...
Alors à notre gauche, c'est là que les gens de couleur de la classe ouvrière étaient forcés de vivre. Et ici, de l'autre côté, vers les hauteurs de Berkeley, les rues sont beaucoup plus jolies, les maisons beaucoup plus grandes. Et ça, c'était réservé aux Blancs. Dans les années 60, les habitants conservateurs de Berkeley ont formé des groupes pour dire « Nous ne devons pas vendre aux Noirs ». Ils disaient qu'ils ne voulaient pas congoliser leur quartier. C'était une sorte d'hystérie blanche. Et c'est dans cet univers que sont arrivés les parents de Kamala Harris. Un monde très divisé au début des années 60. Tout ça a commencé à changer avec le Free Speech Movement en 1964. Et à la fin des années 60, les choses ont vraiment changé à tel point que Berkeley devient la première ville des États-Unis à lancer deux lignes de bus pour déségréguer son système éducatif.
Two-way busing to try to desegregate education.
Et c'est ici que la conscience politique de Kamala Harris s'est forgée, en pleine effervescence du mouvement Black Power, du Berkeley et du Oakland de la fin des années 60. Un endroit a particulièrement marqué la candidate à la vice-présidence des États-Unis, c'est le Rainbow Sign, un centre culturel noir de quartier aujourd'hui disparu. C'est là que sa maman Shomaya, désormais séparée de son père, est devenue chercheuse en cancérologie, amenait chaque semaine la petite Kamala et sa sœur Maya, comme l'explique Scott Saul en nous conduisant à cette adresse.
Le Rainbow Sign, c'était un centre afro-américain très novateur. Ici passaient souvent de grands artistes noirs américains, des activistes et des écrivains comme Maya Angelou, James Baldwin, Nina Simone. Ils venaient pour présenter leur travail, débattre, organiser des événements politiques. Kamala était l'une des jeunes qui fréquentait le centre et elle s'est imprégnée de cette culture. Shyamala, la mère de Kamala, est une Américaine d'origine indienne qui vient d'une famille d'activistes en Inde. Et aux États-Unis, même après la séparation avec son mari afro-américain, elle sait que ses filles seront perçues comme des Noirs aux États-Unis. Alors, elle décide de les élever en leur donnant le meilleur de l'éducation afro-américaine. Et pour ce faire, elle les amène chaque semaine au Rainbow Sign. Et dans ce centre, Kamala et sa sœur Maya reçoivent cette éducation et éveillent leur conscience noire.
Sans ce centre culturel afro-américain, est-ce que vous pensez que Kamala Harris serait aujourd'hui candidate pour la vice-présidence des États-Unis ?
Dans ses mémoires, elle raconte que le Rainbow Sign a eu un immense impact sur elle. Elle dit en substance, ma mère m'avait donné toutes les leçons sur comment devenir responsable, être une bonne personne. Mais c'est uniquement en venant au Rainbow Sign que j'ai compris qu'être une bonne personne, au sens où elle l'entendait, ça passait d'abord par devenir une citoyenne. Donc, au Rainbow Sign, les leçons de vie de sa maman sont devenues des leçons politiques. Elle pénétrait dans un monde où des personnes noires discutaient avec assurance des moyens de changer le monde. Elle raconte avoir assisté à certaines de ces réunions, avoir écouté des orateurs passionnés sur scène. C'était son initiation au débat démocratique. Elle raconte aussi que le jeudi soir était son rendez-vous favori, parce que c'était le soir où un groupe de femmes noires se réunissaient pour organiser des actions politiques. Ces femmes se retrouvaient au Rainbow Sign. Et le jeudi soir, Kamala voyait des femmes noires de la baie de San Francisco s'emparer elles-mêmes de la chose politique et contribuer à faire élire le premier maire noir à Berkeley et ensuite, dans les années 70, à faire élire des femmes noires. Et finalement, il se trouve que cette organisation a fini par aider Kamala Harris à être élue au poste de procureur de San Francisco. Donc, c'est une tradition politique très importante qu'elle a d'abord observée et qui a ensuite contribué à faire décoller sa carrière.
Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter la prochaine vice-présidente des États-Unis.
Kamala Harris. Pendant sa campagne, Joe Biden l'avait promis. Pour affronter Donald Trump à ses côtés en novembre, il choisirait une femme. Après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis, et les manifestations antiracistes les plus importantes qu'aient connues les États-Unis depuis des décennies, le profil d'une femme de couleur s'est imposé.
As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility.
Cet été, Joe Biden officialise son choix. La sénatrice de Californie devient la première femme de couleur candidate à la vice-présidence des États-Unis. Et dans son discours d'acceptation, Kamala remet en avant cette identité de fille d'immigrée. Son récit familial la pose en produit de la diversité américaine et de la lutte pour les droits civiques.
Ma mère et mon père sont venus du bout du monde, l'une d'Inde, l'autre de Jamaïque, pour trouver ici en Amérique la meilleure éducation au monde. Mais c'est le mouvement pour les droits civiques des années 60 qui les a réunis. Encore étudiants, ils se sont rencontrés dans les rues d'Oakland en manifestant et en criant des slogans pour plus de justice. Une lutte qui continue aujourd'hui et j'ai participé à ce mouvement. Mes parents m'amenaient avec eux dans les manifestations, bien attachées dans ma poussette.
Et seulement quelques semaines après sa nomination, nouvelle affaire de violence policière, nouvelles émeutes. Cette fois, dans le Wisconsin, la police d'une petite ville, Kenosha, vient de tirer 7 balles dans le dos d'un père de famille noir de 29 ans, Jacob Blake, devant ses 3 enfants. Sans un mot pour la victime, Donald Trump qualifie les manifestants antiracistes de terroristes et prend la défense de la police. Kamala Harris, elle, promet de la réformer.
Justice. Let's talk about that.
Parlons un peu de justice. La réalité, c'est que la vie d'un noir aux États-Unis n'a jamais été considérée comme totalement humaine. Et nous avons encore du travail pour que la promesse de l'égalité de tous devant la loi soit une réalité. Nous ne l'atteindrons qu'à condition de lancer une vaste réforme de notre justice et de notre police.
Justice pour
Jacob Blake.
Lorsque Kamala Harris prononce ces mots, de nombreuses villes américaines sont secouées par des manifestations violentes pour demander la fin de la brutalité policière, la fin aussi de son impunité. C'est notamment le cas à Oakland. Pourtant, dans sa ville natale, le nom de Kamala Harris ne semble pas inspirer la confiance aux manifestants antiracistes. Tous, ou presque ici, gardent un très mauvais souvenir de son bilan sécuritaire lorsqu'elle était procureure à Oakland, puis à San Francisco, et ensuite Attorney General, l'équivalent du ministre de la Justice de Californie. Des années durant lesquelles Kamala Harris aurait pu réformer la police, mais a choisi le statu quo. C'est en tout cas ce que pensent ces manifestants croisés dans les rues d'Oakland.
Je suis un homme noir d'Oakland, en Californie, et j'ai vu beaucoup de mes amis noirs finir en prison pour rien, pour des histoires de cannabis. Ça, c'était le résultat de la politique de Kamala Harris. Des milliers de noirs ont été séparés de leur famille, donc non, je ne soutiens pas Kamala Harris, même si je suis un noir de 32 ans.
And me as a black man, I do not support her.
Le fait qu'une femme noire soit à ce poste est très important. Je suis fière de ça. Mais au final, est-ce que j'ai confiance en elle? Non, c'est une femme noire qui met des personnes noires en prison. Comment vous pouvez mettre vos semblables en prison, sachant que le système est construit contre eux?
Et le scepticisme envers Kamala Harris et son bilan sécuritaire est le même lorsque l'on passe un appel à Kat Brooks, cette figure historique de la lutte contre les violences policières et du mouvement Black Lives Matter à Oakland.
Kamala Harris est juste un super flic qui a fait sa carrière en poursuivant et en incarcérant des personnes noires. Elle n'a jamais bougé pour défendre aucune famille qui ait perdu un être cher en raison de violences policières. Je n'ai aucune raison de croire qu'elle a changé. J'ai toutes les raisons de croire qu'elle tient ce discours aujourd'hui parce qu'elle fait campagne pour séduire les progressistes et le vote noir. En fait, le succès de la carrière de Kamala a toujours dépendu de ses bonnes relations avec l'institution sécuritaire. D'abord, en tant que procureur de district, puis en tant que procureur général, elle devait avoir de bonnes relations avec les forces de l'ordre pour avancer. Du coup, elle a toujours été du côté de la police et pas du côté des gens. Des centaines de personnes sont mortes entre les mains de la police. Elle n'a jamais rien fait.
Et malgré ses doutes, ses réticences, Kat Brooks n'hésitera pas. Le 3 novembre prochain, elle votera pour le ticket Joe Biden, Kamala Harris. Un vote sans enthousiasme pour le moindre mal, dit-elle. Un vote pour faire barrage à Donald Trump.
Sur les traces de Kamala Harris en Californie, un grand reportage d'Éric Desalves, réalisation Jérémy Besset.